Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Célébration de la journée mondiale de lutte contre l'excision au Mali. Près de 90% des femmes subissent les mutilations génitales selon différentes sources. Dans certaines parties du nord du pays, la pratique est devenue l'activité principale de certains. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel lors du 5e sommet tenu à Ouagadougou ont une nouvelle fois réitéré leurs préoccupations face à l'insécurité grandissante dans le Sahel. Le dossier de la rédaction s'intéresse aux téléphones portables. Dans nos sociétés maintenant, ces technologies sont devenues un outil indispensable pour tout un chacun. Pourquoi tant d'intérêt pour le téléphone mobile? La réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Assetou Kanté. Nous venons juste d'apprendre cette nouvelle. Trois éléments du groupe d'autodéfense Ganda Koye ont été tués en début d'après-midi à Gao. Selon une source locale, des hommes armés à bord d'un véhicule ont tiré sur eux avant de disparaître. La situation est actuellement tendue dans la ville. Le marché ainsi que de nombreux commerces sont fermés, nous indique la même source. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, 6 février, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales. Au Mali, elle continue d'être une réalité. Près de 90% des femmes en subissent avant l'âge de 15 ans, selon des études. À Goundam, l'excision est encore pratiquée dans la moitié des 16 communes du cercle, indique le service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et cela malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. De Goundam, le reportage de notre correspondant Almoudou Mahaman Bangou.
Les conséquences de l'excision sont multiples. Elles peuvent être à court, moyen et long terme, explique Dr Mama Dembélé, médecin généraliste au centre de santé de référence de Goundam.
Sur le plan gynécologique, une femme excisée peut avoir des douleurs, une hémorragie, c'est-à-dire des saignements, les infections aiguës, les infections des organes de voisinage, il y a la rétention urinaire. Il y a également les conséquences à long terme, telles que les déformations vulvaires. Il y a la dysphorie également, qui se définit comme étant une difficulté au cours des rapports sexuels. Sur le plan obstétrical, l'enfant peut avoir une souffrance au cours de l'accouchement.
Fatouma Kipsi Salamoun est une ancienne exciseuse qui a aujourd'hui déposé le couteau. Même si elle affirme n'avoir rencontré aucun problème dans ce travail, elle dit en avoir mesuré les risques grâce aux différentes campagnes de sensibilisation.
Notre activité est la pratique de l'excision que nous avons héritée et ne saurions l'abandonner. Mais nos autorités nous ont déconseillé cette pratique. Depuis que nous la pratiquions, nous n'avons jamais enregistré d'anomalie. De nos jours, les autorités nous signalent ces conséquences.
Mais pour cette mère de famille, il ne suffit pas d'expliquer les risques que comporte l'excision. Mais il faut aussi proposer des alternatives à celles pour qui la pratique est devenue l'activité principale.
Nous gagnons tout dans cette pratique de l'excision. Maison, champ, d'autres cadeaux. Nous sommes désormais conscientes de ses conséquences néfastes. Mais nous voulons qu'on crée d'autres alternatives afin que nous abandonnions définitivement cette pratique. Depuis que nous avons déposé nos couteaux, nous n'agissons ni profitons.
Dans la commune de Goundam, l'excision ne se pratique plus depuis la signature d'une convention pour son abandon total. Mais malgré cela, les efforts doivent continuer afin de l'éradiquer dans tous les cercles. Depuis Goundam, Almoudou Mahaman Bangou pour Studio Tamani.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Le 5e sommet des chefs d'État du G5 Sahel a pris fin hier à Ouagadougou au Burkina Faso. À l'issue de cette rencontre, les dirigeants des pays membres ont réitéré leurs préoccupations face aux attaques terroristes récurrentes dans la zone. Une fois encore, ils sollicitent le soutien des Nations Unies à appuyer la mise en route de la force conjointe. Les détails avec Momine Saint-Debout.
Au cours de ce sommet, les chefs d'État du G5 Sahel ont réaffirmé leur détermination et leur volonté à poursuivre le combat contre le terrorisme. Par ailleurs, dans leur communiqué, ils soulignent que la force militaire ne peut être la solution unique face à la menace djihadiste qui sévit dans la bande sahélienne. Ainsi, ils appellent la communauté internationale à soutenir les efforts du G5 Sahel dans la sécurisation et le développement de son espace. Pour ce 5e sommet, les chefs d'État ont ont saisi l'occasion pour plaider en faveur d'une coopération plus étroite entre le G5 Sahel et les Nations Unies. Ils demandent le placement de la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce chapitre autorise le recours à la force et aussi à des mesures si un État se trouve en présence de difficultés économiques particulières. Ce sommet intervient quelques semaines après des opérations menées par la force conjointe dans sa zone. Toutefois, elle a du mal à réunir la somme de 2,4 milliards d'euros promis par les pays donateurs en 2018 en Mauritanie.
Autre sujet, une rencontre de prière, de vérité et non une rencontre de colère et de haine. Ces propos sont de Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique, concernant son appel au meeting du dimanche prochain. Selon lui, tous les Maliens doivent se donner la main pour sortir le pays de cette situation difficile. C'était lors d'un point de presse organisé hier à Bamako. Mahmoud Diko est au micro de Hamadoun Hamamaïga.
Une journée de bénédiction, une journée de vérité, mais pas une journée de colère. Nous voulons rassurer tout un chacun. Nous ne voulons pas nous brûler ce pays. Nous ne pouvons pas nous mettre ce pays à feu et à sang. Notre rôle, c'est d'appeler à la sagesse. Et nous allons appeler à la sagesse. Nous appeler vers la vérité. Qu'on se parle entre nous. Qu'on ait vraiment pour nous chercher les voies et moyens pour que notre pays puisse vraiment sortir de cette situation. Je suis sûr que nous avons les moyens, nous avons les ressources pour que le pays puisse vraiment sortir de cette situation. C'est plus simplement qu'on ait la volonté de nous mettre ensemble, converger nos énergies, mutualiser tout ce que nous avons pour que nous puissions vraiment sortir de cette situation.
Je vous l'annonçais dans les titres. De nos jours, les téléphones portables sont devenus un outil indispensable pour tout un chacun. Dans nos sociétés, partout où l'on passe, chacun a les yeux rivés sur son smartphone. Si certains apprécient l'avènement de cette technologie de communication, pour d'autres par contre, elle est devenue source de problèmes dans les familles. À l'occasion de la Journée mondiale sans téléphone portable, Adama Amadou Aïdara s'est intéressé au sujet, suivant son reportage.
Nous sommes ici au quartier Bakaribougou dans un grain. Ils sont tous concentrés sur leur téléphone portable. Pour Moussa, ce jeune homme de 25 ans, l'utilisation du téléphone est indispensable.
Nous, on l'utilise parce que ça nous aide à comprendre des choses. On peut prendre des dictionnaires pour connaître les mots qu'on ne connaît pas le sens. On connecte, on peut parler avec un ami qui n'a pas dans le grain.
Cette machine à communiquer est devenue une véritable addiction pour certains. Par contre, pour cette dame, ses smartphones ont changé de façon négative les habitudes et comportements dans nos familles. L'usage de ces androïdes a même des conséquences néfastes sur l'apprentissage des enfants à l'école, poursuit-elle.
Dans toutes choses, il y a des inconvénients comme des avantages. Tu vas dans une famille, tu trouves que le mari est avec son téléphone, la madame aussi avec le sien. Même les enfants aussi, ça joue sur l'apprentissage du scolaire même des enfants.
Selon les médecins, hormis ces impacts sociaux, l'utilisation à long terme de ces téléphones peut également avoir des effets négatifs sur les systèmes nerveux de l'être humain. Docteur Alain Dambélé.
Il n'y a pas eu d'études au Mali ici menées sur cet abus de l'utilisation des smartphones, mais par rapport à des études qui avait été menée sur les zones magnétiques, leur incidence sur le système nerveux central. Il est probable que l'utilisation abusive de ces téléphones puisse amener des problèmes au niveau des nerfs. Les gens sont connectés, ils ont des informations au niveau de l'oreille, en même temps ils ont des informations au niveau des yeux. Tout ça, ça amène des zones au niveau du cerveau.
Rendez-vous culturel international. Le festival sous le Niger est une aubaine pour les jeunes artistes du Mali. Beaucoup parmi eux ont été révélés au monde grâce à cet événement culturel. D'ailleurs, à chaque édition du festival, ces révélations. Notre reporter Fatih Yattar a rencontré quelques-uns de ces artistes en herbe appelés jeunes talents. Voici son reportage.
Il s'appelle Gaussou Diaw, connu sous le surnom de Fardo. Ce jeune artiste musicien n'est pas à sa première participation au festival sur le Niger. Selon lui, l'événement est un lieu d'éclosion des talents, mais également de perfectionnement.
Ça me permet d'améliorer ce que je suis en train de faire, puisque quand on parle de talent, ça ne me concerne pas moi seul, il y a d'autres jeunes qui viennent. C'est un endroit d'échange, de rencontre.
Le festival sur le Niger m'a créé des opportunités, affirme celui qui a déjà sillonné quelques villes africaines.
Ça a apporté beaucoup de choses pour moi, parce que on a été sélectionné pour Caravane de la Paix. On a été au Maroc pour un festival aussi qui s'appelle Festival Taragalt. Et il y a d'autres festivals qui sont programmés.
Les parrains de ce rendez-vous culturel, Cheikh Tidjani Sek n'a pas manqué l'occasion de prodiguer des conseils à l'endroit des jeunes talents. Il les invite à faire dans leur texte la promotion de certaines valeurs culturelles.
Le contenu de ce que nous voulons proposer à la population, c'est un message positif, un message fédérateur, un message qui fait que les gens apprennent le pardon, l'amour d'eux-mêmes et l'amour d'autrui.
Le festival sur le Niger se poursuit à Ségou pour le bonheur des jeunes artistes qui auront encore l'occasion d'exprimer leur talent pour le bonheur des festivaliers. Fatih Yattara depuis Ségou pour Studio Tamani.
Et suivez en intégralité ce festival jusqu'au 9 février avec notre reporter, notre envoyé spécial Fatiyata Rasigou. Vous aurez dans nos prochaines éditions un reportage sur la mission du centre Corée. Sport football, Cannes des moins de 20 ans. Le Mali a battu cet après-midi le Burkina Faso par le score d'un but à zéro. Les Aiglons se rachètent donc après leur entrée en lice ratée face au Sénégal. Ils comptent 3 points et la troisième sortie de l'équipe malienne est prévue pour samedi 9 février. Ce sera contre le Ghana à 15h30 à Niamey.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
18h passé de 10 minutes. Dans un instant, ce sera le grand dialogue. Bonsoir Mohamedou Touré.
Oui, bonsoir à Sétou Kanté.
Ce soir, vous allez aborder quel sujet?
Quelle est la situation à Joïla? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Madame Sangaré Kouradier Traoré, ancienne exciseuse, Madame Ouattara Korotoumou Sanogo, chef du service local promotion de la femme à Joïla, Na Fatoumata Traoré, directrice de la radio Marat Démé et Batama Magassa, sous-préfet à la retraite. Ce débat est réalisé dans le cadre du projet Droits des femmes de Studio Tamani en partenariat avec l'IMRAP et avec l'appui financier de l'Union européenne.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Restez à notre écoute dans un instant, le magazine.